Le second tour des élections municipales en France a livré son verdict, un taux d'abstention record, un paysage électoral français de plus en plus fragmenté entre les grandes villes et leurs périphéries, des alliances entre LFI et le PS qui se sont révélées infructueuses et même, et pour la plupart scandaleuses d'ailleurs, autant de sujets abordés par notre ami Jonathan Serrero avec Olivier Costa que je vous propose de retrouver. C'était hier soir dans le grand journal de la rédaction à 18h.
On va revenir sur le second tour des élections municipales en France avec vous, Olivier Costa. Je le rappelle, vous êtes politologue, spécialiste des questions européennes et directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le premier enseignement de cette élection, c'est le taux d'abstention record de 42,18%. Comment expliquer le désamour existant entre les électeurs français et sa classe politique ?
C'est une tendance lourde qui dure depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'élection après élection, le taux de participation s'érode. Il y a un déclin de la confiance des citoyens dans les partis politiques, dans les institutions, dans les responsables politiques. Et cette élection n'a pas fait exception. Et ce qu'on a vu entre les deux tours avec un certain nombre d'alliances qui pouvaient être jugées surprenantes ou contre nature n'a pas favorisé les choses. On a pu le mesurer dans certaines configurations. Des électeurs sont restés chez eux pour protester notamment contre l'alliance du PS avec LFI.
Qu'est-ce que dit le paysage électoral plus que fragmenté sur l'état de la France actuellement ?
Fragmentation, c'est le bon mot. On est en train d'importer au niveau local la fragmentation qu'on connaît à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on a 11 groupes politiques différents, ce qui est un record historique sous la Ve République, qui reflète à la fois la montée des extrêmes, le RN d'un côté, LFI de l'autre, mais aussi le morcellement des partis traditionnels. Et on est en train de retrouver ce même phénomène au niveau municipal. Si on prend les plus grandes communes en France, mettons les 236 communes de plus de 30 000 habitants, on voit que le RN commence à se faire une place, LFI commence à se faire une place, la droite est toujours là, mais peut-être divisée en différentes nuances, les socialistes également, et donc on a cette fragmentation, de sorte qu'on peut dire, au lendemain de ce second tour, que tout le monde a perdu, puisque les grands partis ont perdu des plumes dans cette affaire, les Verts en ont perdu, LFI n'a pas fait le score qu'il espérait, et le Rassemblement national n'a pas réussi à conquérir de grandes villes.
C'est un peu ce que l'on retrouve à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Olivier.
Exactement, ce qui est un vrai problème pour la vie politique française, parce qu'on voit que ça devient structurel. Or, nos institutions ne sont pas faites pour fonctionner ainsi. Alors, au niveau local, c'est pas un problème, parce qu'on a un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire, ce qui fait que la liste arriver en tête dans une ville à une majorité peut gouverner. Au niveau national, c'est très différent et on le voit bien depuis 2 ans.
Alors, au soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise avaient crié victoire. Est-ce que, selon vous, ils n'ont pas sabré le champagne un peu trop tôt au regard de leurs résultats au soir de ce second tour ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut considérer que LFI est un parti qui partait de quasiment rien en termes d'implantation électorale. Donc, toute victoire est bonne à prendre et permet de claironner que c'est historique. Maintenant, on voit très bien que LFI s'est aussi heurté à un plafond de verre. Ils ont conquis quelques villes de taille moyenne, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. Mais on voit aussi que là où ils ont fait alliance avec les socialistes ou avec les Verts, les résultats ne sont pas au rendez-vous, car LFI est un parti qui a pu montrer à travers ces élections qu'il a une base électorale très solide dans une partie de la population, chez les jeunes, urbains, dans une partie de la population des quartiers plus difficiles, mais que d'un autre côté, c'est un parti qui suscite un fort rejet dans le reste de l'électorat et qui n'arrive pas au second tour à mobiliser dans le cadre d'une alliance avec les socialistes.
L'une des images qui restera de cette soirée électorale, ce sont ces maires sortant quasiment exfiltrés de leur mairie sous les huées et voire même les insultes d'une foule qui criait « La mairie est à nous, où nous sommes tous des enfants de Gaza ». Faut-il s'en inquiéter, Olivier ? Quel est le message qui est adressé au reste de la population française à travers ces images ?
À travers la fragmentation de la vie politique locale dont on parlait tout à l'heure, on a un changement. Avant, les municipalités étaient toutes tenues, soit par les socialistes, soit par les LR ou des partis qui étaient situés entre les deux, et on avait quelques villes traditionnellement tenues par le Parti communiste français. Mais tout ça se passait en bonne intelligence et je dirais dans l'ordre républicain. Maintenant arrivent sur la scène politique des gens qui sont aux extrêmes du spectre politique, que ce soit le Rassemblement d'un côté ou LFI de l'autre. l'autre, et ça crée des tensions extrêmement fortes, des campagnes qui ont été violentes, des campagnes qui prennent beaucoup de place sur les réseaux sociaux, où là on a le sentiment que il n'y a pas de limite à la possibilité à ce qu'on peut dire, et évidemment au soir des élections, il y a des règlements de compte du groupe qui a gagné sur l'autre, et donc on a assisté à ces scènes assez lamentables de maires qui étaient à deux doigts de se faire lyncher.
Est-ce que la stratégie du LR à Marseille de laisser au deuxième tour sa candidate Martine Vassal pour empêcher l'extrême droite de s'emparer de la cité phocéenne augure déjà du scénario de la future présidentielle? À Paris, par exemple, on a entendu Sarah Knafo déclarer que c'est Édouard Philippe qui aurait sapé une alliance possible avec Rachida Dati.
On a une configuration pour les présidentielles qui va être extrêmement complexe. À gauche, on le sait, parce qu'on ne sait pas si le PS veut s'allier ou pas avec LFI. Mais à droite, c'est pas plus clair. Et LR, aujourd'hui, est un parti qui est vraiment fracturé en deux, entre les électeurs et les élus, qui pensent qu'il faut faire alliance avec des candidats plus à droite que soi, c'est-à-dire qu'avec Reconquête ou avec le RN, et ceux qui pensent qu'au contraire, il faut aller chercher des alliances du côté du centre, avec Horizon, avec Modem, avec peut-être Renaissance. Et en fait, les choses sont en train de se décider aujourd'hui. Il y a un bureau politique des Républicains aujourd'hui, où ils vont définir leur stratégie pour les élections présidentielles de 2027. Et on voit bien que le contexte politique qui avait permis à Emmanuel Macron d'être élu en 2017, c'est-à-dire d'une fracture d'un côté du PS et de l'autre côté des LR, entre à chaque fois des modérés et des plus radicaux, bah, on en est toujours là. On n'arrive pas à en sortir. Et ça va être très compliqué pour les appareils des partis d'inventer des solutions pour éviter une multiplication des candidatures en vue des présidentielles.
Qu'est-ce qui permettrait de sortir de cette lornière politique qui dure déjà depuis de nombreuses années? On parle de l'union des droites, mais est-ce que c'est un vœu pieux dans l'histoire de la politique française, cette union des droites?
Alors, ça dépend de quelle union des droites on parle. Qu'il y ait finalement trois candidats de droite au premier tour, ça a toujours été le cas. On a toujours eu un candidat un peu centriste du type UDF, un candidat qui correspond à LR aujourd'hui, et un candidat d'extrême droite, puisque Jean-Marie Le Pen était déjà candidat en 1974. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est, pour la droite, c'est qu'il y ait trois candidats par parti, et ça a l'air d'être relativement bien parti, puisque moi j'ai compté au moins 25 candidats déclarés sur la droite de l'échiquier politique, et pour l'instant il n'y a pas d'accord sur la manière de procéder. Alors ça va être discuté encore une fois ce soir par LR. Est-ce qu'il va y avoir une primaire? Si cette primaire a lieu, est-ce qu'elle sera réservée aux adhérents des Républicains, ou est-ce qu'elle sera ouverte à tous les sympathisants de droite? Ou alors est-ce que c'est le parti qui va simplement désigner un candidat, et dans ce cas-là ça sera Bruno Retailleau, le patron du parti? On le saura dans les heures qui viennent, mais à un moment donné, je pense que les solutions ne peuvent être que procédurales, que ça soit à droite ou à gauche, que les partis et les acteurs s'entendent sur une façon de désigner les candidats pour éviter d'avoir 15 candidats à la présidentielle. On en aura 15, mais on a généralement 10 candidats qui sont assez qui n'ont aucune chance de l'emporter, et 5 qui sont plus valablement dans la course.
J'ai une toute dernière question, Olivier, en lien justement avec ce front républicain observé en France contre l'extrême droite traditionnellement. Est-ce que ce modèle peut s'appliquer en Belgique? Je vous pose la question car le président du PS ici, Paul Magnette, a relancé le débat sur le cordon sanitaire autour de l'extrême droite en émettant le souhait d'actualiser la charte de la démocratie, et le MR souhaite l'étendre à l'extrême gauche.
Oui, je pense que c'est une possibilité, d'autant qu'en Belgique, il y a toujours eu une attitude vis-à-vis de l'extrême droite qui est beaucoup plus dure que celle qui est en France. Et je pense notamment aux médias belges qui, pour la plupart, ont toujours tenu une espèce de cordon sanitaire vis-à-vis de la droite la plus radicale. Donc, je dirais que dans la culture politique belge, c'est pas quelque chose qui serait considéré comme extravagant. Ensuite, il y a toujours la question, si ça se passe à droite, est-ce qu'il faut pas que ça se passe à gauche aussi? Et on a exactement le même débat en France aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas traiter LFI et le Rassemblement national sur un pied d'égalité.
Olivier Costa, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Merci.